Nous nous retrouvons donc pour cette dernière séance sur la morale et la question du genre. Et je souhaiterais organiser le programme de cette séance en trois temps. D'une part, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit la semaine dernière, d'une part parce que je crois que ce que j'ai raconté la semaine dernière n'était pas facile et que ça peut justifier une manière un peu différente d'aborder le problème. D'autre part, je voudrais tirer un certain nombre de conclusions sur les résultats du travail de Carole Gilligan, puisque c'est cette dame qui nous occupe. Et j'essaierai de conclure en ouvrant un petit peu la perspective d'analyse et en tentant de montrer pourquoi et quel intérêt il y a à raisonner sur ce genre d'objet au jour d'aujourd'hui. Et je crois que la question du féminisme, ou plus précisément parce que ce terme de féminisme est un terme trop vague, trop générique, et il est connoté d'une histoire déjà bien longue, je dirais plutôt que la question de l'égalité entre les sexes est une question d'une redoutable actualité et il n'est pas évident d'y répondre. Alors, vous vous rappelez que le titre général que j'avais donné à cet enseignement et que j'avais reformulé de manière un petit peu provocatrice, c'était « La morale a-t-elle un sexe ?» Et la semaine dernière, je me suis appesanti de façon extrêmement considérable sur le travail qu'avait fait dans les années 70-80 cette philosophe et psychologue américaine, Carole Gilligan. Et je voudrais revenir un petit peu sur le contexte dans lequel elle a fait ce travail pour bien vous faire comprendre que derrière l'enquête proprement psychologique, il y a des enjeux qui sont des enjeux absolument considérables sur le plan théorique, bien sûr, et sur le plan politique. C'est peut-être ça qui nous intéresse le plus ici. Alors je rappelle simplement, et c'est le premier point qui me paraît important, c'est que dans les États-Unis des années 70, dans le domaine de la psychologie de l'enfant, il y a un type d'étude qui est extrêmement important et fréquent qui consiste à essayer de décrire la manière dont l'enfant acquiert progressivement, par phase, par stade, le raisonnement et l'autonomie dans le raisonnement. Alors, il y a plusieurs écoles, je ne vous embêterai pas ici avec cet élément un peu technique, mais je voudrais revenir sur celui qui a été le maître de Carole Gilligan et dont elle s'est progressivement séparée, et c'est évidemment cette séparation et les raisons pour lesquelles cette séparation a eu lieu qui retiennent ici mon attention. Donc ce psychologue qui a joué un rôle très important s'appelle Kohlberg. Et Kohlberg a essayé de proposer un modèle explicatif général qui tentait de rendre compte, en distinguant des phases, la manière dont le jeune enfant, quel que soit son sexe, j'insiste là-dessus parce que justement ça sera un problème, la manière dont le jeune enfant progressivement sort d'un rapport à l'ego qui est essentiellement narcissique pour aller vers l'autre. Autrement dit, la question qui est posée au départ dans ces modèles psychologiques, ce sont des questions qui tournent autour de la façon de décrire et de rendre compte d'un modèle de développement psychologique. Donc ça, c'est très important parce qu'on va voir que ça va jouer un rôle tout à fait décisif sur la distinction entre les sexes. Alors, derrière ce modèle descriptif de l'accès à l'autonomie, se joue un autre point qui est là tout à fait important également, qui est celui de la manière dont l'enfant progressivement va apprendre à raisonner. Alors, quand je dis ici raisonner, évidemment je ne dis pas raisonner au sens où on peut l'apprendre en philosophie, où on peut l'apprendre en mathématiques. Il s'agit d'une forme d'argumentation ordinaire, commune, qui consiste et qui concerne donc tous les actes ou toutes les attitudes de la vie ordinaire. Il ne s'agit pas du raisonnement qui séparerait le philosophe ou le sociologue ou le théoricien d'un côté et puis les hommes de la rue de l'autre. Non, il s'agit d'une aptitude, d'une capacité à mettre en comparaison, à faire valoir tel aspect plutôt que tel autre, à faire des choix, à se placer dans des situations, à faire des hiérarchies, à évacuer des possibilités. Autrement dit, il s'agit d'une capacité qui est une capacité ordinaire du raisonnement, qui renvoie à tous les individus, sans exception, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Par exemple, pour donner un exemple, il s'agit d'apprendre à trancher des dilemmes, il s'agit à choisir des valeurs, il s'agit de définir des solutions. Et ces capacités, ces possibilités, eh bien, elles permettent de régler tous les problèmes du quotidien. Elles sont absolument vitales. Et il faut bien dire que cette capacité, elle n'est pas spontanée. Elle n'est pas quelque chose de naturel. Elle est quelque chose qui s'apprend. Elle est quelque chose qui se développe. Elle est quelque chose qui se déploie. Et donc, il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier. Et il faut apprendre à en faire usage. En un mot, il faut apprendre. Et dès lors qu'on parle d'apprentissage, vous pouvez le comprendre, eh bien, on renvoie aussi à des formes différenciées d'éducation. Apprendre suppose une éducation. Et d'une certaine manière, apprendre à raisonner suppose un milieu social, qui peut être évidemment la famille, et on va voir qu'il joue ce milieu-là un rôle très important dans la première éducation, mais aussi l'école, et puis tous les modèles d'identification, que ce soit les parents, que ce soit les oncles et tantes, que ce soit les héros, etc., etc. Bref, on voit bien ici que cet apprentissage de la capacité ordinaire à raisonner est lui-même conditionné sociologiquement. Alors évidemment, quand je parle ici de ce conditionnement sociologique ou de cette socialisation, parce qu'on peut aussi utiliser ce terme, je ne veux pas dire que ce type de raisonnement, ça soit simplement la conséquence de l'acquisition d'un capital culturel, pour utiliser un terme qui est celui de Pierre Bourdieu. Je veux dire vraiment qu'il s'agit de se placer, de se positionner dans des situations ordinaires de la vie. Par exemple, je donne un ou deux exemples pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Que dois-je faire lorsque je me promène dans la rue, que je rentre dans ma boulangerie pour acheter du pain et que je trouve à la porte d'entrée de ma boulangerie quelqu'un qui fait la manche? Que dois-je faire ou que puis-je faire? Ou qu'ai-je envie de faire? De la même manière, je suis seul sur la route où je suis seul dans un bus, et j'assiste à un incident entre deux personnes, une forme d'agression verbale, comme il y en a de plus en plus, ou une agression physique. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le type de raisonnement que je vais conduire dans ces cas particuliers n'est pas un type de raisonnement qui renvoie nécessairement à la possession d'un capital culturel sophistiqué, qui ne renvoie pas nécessairement à des raisonnements extrêmement complexes, mais qui mobilisent, vous en êtes convaincu, je l'imagine, des types de justification, des formes de décision, de choix, de position, qui sont tributaires à la fois des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, qui sont tributaires de la personnalité qui est la vôtre, qui sont tributaires des valeurs auxquelles vous adhérez, des choix que vous faites aussi, existentiellement parlant. Bref, on pourrait multiplier ici les exemples à l'infini et on verrait que la vie quotidienne, elle est faite d'une multitude de situations qui supposent des choix, qui supposent des orientations, qui supposent de se placer, de se situer et en fonction de cette situation, d'évacuer des possibilités ou d'en retenir. Alors, évidemment, ces situations dans lesquelles on se trouve dans la vie ordinaire, elles peuvent être sans importance, ordinaires, et puis parfois elles peuvent être beaucoup plus graves, ou elles peuvent impliquer des choix plus graves. Par exemple, la solidarité, par exemple, l'assistance à une personne en danger. Ce qu'il faut dire ici, c'est que dans beaucoup de ces situations, le raisonnement se fait presque spontanément. Comme si on n'avait même pas le temps d'y réfléchir, le corps, l'esprit était en quelque sorte orienté, guidé par ce qu'on pourrait appeler, dans un vocabulaire peut-être un peu plus technique, une sorte de disposition, de spontanéité. Mais en fait, quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte que lorsqu'on réfléchit aux raisons qui nous ont poussés à agir spontanément, eh bien on se rend compte que ces raisons, elles ne sont pas tout à fait neutres, ne sont pas tout à fait, non pas innocentes au sens moral, mais elles font, hein, elles sont la conséquence de choix, elles sont la conséquence de pré-sélection. Et d'une certaine façon, lorsqu'on regarde en quoi consiste le travail d'un procès, par exemple, un procès, à propos de situations qui ont impliqué des individus, des acteurs d'une scène qui peuvent être dramatiques au sens où ça peut conduire à des événements irréversibles. Qu'est-ce que c'est que le témoignage? Témoigner, c'est pas simplement dire ce qu'on a vu, c'est parfois aussi essayer de trouver les raisons qui nous conduisent à avoir agi ainsi ou ainsi. Donc, ce raisonnement qui est ici très explicité, qui dans la situation du procès est de l'ordre de l'argumentation, ce raisonnement sous une forme ordinaire et schématique, il a lieu tout le temps. Il a lieu tout le temps. Et c'est un petit peu ceci qui constitue en quelque sorte ce que j'appelais la semaine dernière et ce que j'appelle encore aujourd'hui la capacité à raisonner. Alors, évidemment, ordinairement, quotidiennement, nous avons cette habitude de raisonner. Et ce raisonnement se fait plus ou moins consciemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il conduit à exprimer des jugements. C'est qu'il conduit à se situer, et vous le savez vous-même, dans les conversations ordinaires que vous pouvez avoir avec vos amis, avec vos collègues de travail, eh bien le désaccord qui peut subsister à propos d'un problème à régler, à propos d'un événement, d'une prise de position, ce désaccord, lorsque vous l'exprimez, il vous faut faire ce travail de le justifier. Et qu'est-ce que ça veut dire, justifier votre position? Eh bien, ça veut dire donner les raisons pour lesquelles vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, on a là quelque chose qui est comme une activité sociale ordinaire. Une activité sociale ordinaire qui est le fait de tous les individus, qu'ils soient hommes ou femmes, et qu'ils soient évidemment petits, moyens ou grands. Donc on n'est pas, hein, ou on est rarement, ou on est plus exceptionnellement, dans des situations extrêmes, comme par exemple des situations où il faut discuter et trancher sur le fait de savoir s'il faut poursuivre l'acharnement thérapeutique ou non. Par exemple, dans des situations morales, des situations éthiques, hein, qui font l'objet de débats, de discussions, parce que la réponse à donner à cette question n'est pas évidente. Ce que je veux ici souligner, c'est simplement, en prenant cet exemple, que cet exemple ne fait que marquer le caractère extrême de quelque chose qui peut fonctionner de façon beaucoup plus ordinaire et moins extrême. Donc, à partir de là, il me faut faire une deuxième remarque très importante. Dans ces capacités à raisonner, je ne dis pas que toutes les situations sont des situations morales. Lorsque vous avez à prendre position, lorsque vous avez à décider, lorsque vous avez à vous déterminer, ça peut relever de sphères d'activité extrêmement différentes. Ça peut être des prises de position politiques, ça peut être des prises de position juridiques, etc., etc. Je dis simplement que dans ces différentes sphères, eh bien, il y en a qui sont morales. Et morale ici, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la position que vous allez adopter, elle implique une adhésion à un système de valeurs et elle justifie un jugement. Autrement dit, dans le raisonnement moral, il y a quelque chose de plus que le raisonnement ordinaire qui renvoie à un jugement, qui peut être approbation, désapprobation, indifférence, neutralité bienveillante. Bref, tout un ensemble de valeurs, hein, d'états affectifs, hein, de sentiments, mais qui sont aussi des jugements. Ce que je veux vous faire comprendre ici, à travers ce plan, c'est que le raisonnement moral, il implique donc plusieurs choses. Évidemment, des choix. Et pour justifier des choix, des jugements de valeur. Autrement dit, le fait de se rapporter à un ensemble de valeurs et de les choisir. Or, choisir des valeurs en morale, ce n'est pas toujours facile à justifier. n'est pas toujours simple. Alors, quelles que soient les raisons qui peuvent nous pousser à choisir telle ou telle valeur, ce qui est sûr, c'est que dans le jugement moral, il se passe quelque chose qu'on appelle très souvent, dans la morale ordinaire, l'approbation ou la désapprobation. Approuver, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire partager les valeurs qui justifient la conduite d'autrui, ou se sentir en accord avec ses propres valeurs dans la conduite qui est la nôtre. Hein? Donc, vous voyez, ici, dans le jugement moral, on a des valeurs et on a des sentiments d'approbation. Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est, là aussi, hein, essayer de trouver les raisons pourquoi on est d'accord avec cette conduite. Mais, quelque part, dans le jugement, il y a quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du raisonnement. Il y a aussi quelque chose qui renvoie à l'affection, hein, au sentiment. Alors, les psychologues se sont intéressés à ce type de capacité à raisonner. Et étudier le développement de l'enfant, le développement moral de l'enfant, c'est étudier les phases qui vont recouper ces différentes étapes au cours desquelles le jeune enfant, quel que soit son sexe, va progressivement apprendre à raisonner, va progressivement prendre conscience de valeurs, va progressivement prendre conscience que la société est faite de normes, de règles générales, de lois, de règles implicites, de codes, et de la nécessité qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, de les respecter. Donc, vous voyez bien ici que ces modèles psychologiques sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent, d'une certaine manière, de comprendre comment se constituent et se développent ces aptitudes ou ces compétences au jugement moral. Alors, là aussi, il faut que j'apporte tout de suite une précision qui est très importante, c'est que apprendre à raisonner, c'est pas simplement apprendre à raisonner, c'est aussi se construire dans sa personnalité. Ce que les psychologues ont montré, et ce que montrent d'une manière différente, comme vous le savez, mais je vais le repréciser, Kohlberg et Gilligan, ce qu'ils montrent de façon différente, c'est que l'apprentissage du raisonnement, c'est aussi la construction de soi. Pourquoi ? Parce que dans cette différente série d'étapes qu'il faut franchir, ou que les adolescents ou les enfants vont franchir, c'est non seulement comprendre des situations, mais se placer soi-même dans ces situations. Et l'aptitude progressive à se placer soi-même dans ces situations, c'est bien une construction progressive de la représentation de soi. Donc vous voyez que le modèle est un modèle extrêmement complexe, extrêmement complet aussi, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'isoler comme ça une compétence, hein, une capacité, il s'agit de voir que cette acquisition de la capacité, eh bien, elle est elle-même enveloppée dans un mouvement plus vaste, qui est celui de la construction de la personnalité. Autrement dit, s'intéresser à la question du raisonnement moral, comme maintenant je pense vous l'avez compris chez Kohlberg et chez Gilligan, c'est aussi prendre un point de vue pour s'intéresser à la socialisation, à la manière dont les individus s'intègrent progressivement dans la société, et notamment dans une première des sociétés, qui est une société entre guillemets essentielle, qui est celle de la famille. Parler de socialisation, parler d'intégration, c'est donc également, et ça c'est une troisième remarque importante que je voudrais faire, parler de transmission de valeurs. C'est parler de transmission de représentation. Autrement dit, ces valeurs, ces représentations, ce qu'on peut aussi appeler ces conceptions, eh bien elles vont être diffusées, hein, par des voies extrêmement variées. Le modèle du père et de la mère, évidemment. L'exemple de la conduite des éducateurs, que ce soit les membres de la fratrie, les membres de l'autorité parentale, que ce soit également l'enseignement à l'école, tous les personnages, et je dis bien personnages quasiment au sens de protagonistes, qui vont jouer un rôle dans l'éducation et dans la transmission de ces valeurs. Et transmettre ces valeurs, c'est évidemment non seulement montrer par l'exemple, mais c'est aussi sanctionner. Sanctionner, et évidemment ces sanctions, elles peuvent être de mille et une sortes. Elles peuvent être effectives, explicites. Hein. Je crois qu'il y a très très récemment un député UMP qui a proposé un projet de loi, puisque maintenant on propose des projets de loi à peu près sur tout et n'importe quoi, pour interdire la fessée. Je crois qu'on pourrait comme ça donner des milliers d'exemples qui montrent que finalement le processus d'apprentissage est ici évidemment l'objet de tout un ensemble de transactions qui peuvent être plus ou moins explicites, qui peuvent être plus ou moins normées, normatives, autoritaires ou directives, et qui caractérisent un ensemble de sanctions, de récompenses qui vont valoriser d'un côté des conduites qui respectent des normes, qui vont dévaloriser ou disqualifier des conduites qui ne respectent pas ou qui transgressent ces normes. Bref, là je fais une petite parenthèse parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui sont absolument passionnantes sur la manière dont les jeux de société, hein, et d'ailleurs l'expression même « jeu de société » a un sens, hein, c'est pas simplement qu'on joue à plusieurs, c'est que c'est aussi quelque part, sur le mode ludique, une représentation de la société qui traverse en quelque sorte le simple aspect ludique du jeu. À travers le jeu et les livres, évidemment, les représentations qui sont faites des rôles masculins, des rôles féminins, jouent une importance tout à fait considérable. Et le jeu est d'ailleurs l'occasion, dans les premières phases de l'éducation, d'un apprentissage et d'une acquisition tout à fait considérable, à telle enseigne que parmi les psychanalystes de la deuxième génération qui vont suivre Freud, on va commencer à travailler sur des thérapies pour les enfants à travers justement la pratique du jeu et du dessin. C'est pas tout à fait un hasard, simplement que le jeu apparaît comme la modalité d'expression ou de l'expression de soi à travers laquelle peut se dire ce qui ne peut pas encore se dire à travers les formes du raisonnement élaboré que peut être l'argumentation ou le discours structuré. Donc, à partir de tout ceci, on comprend, et ça sera ma remarque suivante, au moins deux choses. On comprend d'une part que l'acquisition des formes de raisonnement, des formes du raisonnement moral, va donner la priorité à des valeurs, va donner la priorité à des types de situations, et que ces acquisitions, elles sont socialement déterminées. Et que donc, là, il faut reconnaître l'influence du milieu social, l'influence de la famille, l'influence du milieu socio-professionnel, etc., etc. Ce qui veut dire que, même si raisonner dans les situations ordinaires, c'est quelque chose qui est le propre de tous, on va se rendre compte que ce raisonnement peut se faire différentiellement. Parce que tout simplement, chacun n'a pas vécu la même histoire, chacun n'est pas issu de la même famille, chacun n'a pas la même histoire de famille, et chacun n'est pas toujours dans le même milieu. Et que donc, ces différenciations socio-culturelles, elles vont introduire là aussi un ensemble de différenciations et de sensibilité, bien sûr, sur le raisonnement lui-même. Alors, vous remarquerez que, jusqu'à présent, dans la manière que j'ai eu de rendre compte du propos, je n'ai pas trop raisonné encore sur la différence entre les sexes. Alors, le modèle qui est proposé par Kohlberg, qui sert de norme, de modèle standard, c'est un modèle qui n'introduit pas, justement, la différence des sexes. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, ce modèle se prétend, je dis bien se prétend, et c'est comme ça qu'on l'a vu pendant longtemps, être un modèle général, c'est-à-dire un modèle qui vaut pour tous les individus, qu'ils soient garçons ou filles, et il s'agirait donc de retracer les voies, les étapes du développement qui seraient le même ou qui seraient les mêmes pour tous. En fait, il me semble que ce modèle, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est ce que je vais maintenant reprendre de façon un peu plus systématique, eh bien, contient des présupposés, c'est-à-dire en fait des valeurs qui ne sont pas toujours conscientes ou qui ne sont pas toujours explicitées. Et ces valeurs, elles portent notamment, on va le voir, mais pas simplement, sur une représentation de la figure de l'individu et, évidemment, sur une omission fondamentale qui est celle de la distinction entre les sexes. Alors, je voudrais, pour pouvoir expliquer clairement ce point, revenir sur les trois étapes qui définissent ce modèle. Vous vous souvenez, j'avais évoqué rapidement, et je voudrais le faire de manière plus détaillée aujourd'hui, trois étapes. Colbert dit que l'enfant, dans la première phase, correspond à un développement du soi qui est de type pré-conventionnel. Que dans la deuxième étape, ce développement est de type conventionnel, et que dans la troisième étape, ce développement est de type post-conventionnel. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ces trois étapes, et ensuite, je voudrais tirer de ces trois étapes un certain nombre de conséquences qui vont être critiquées par Gilligan. Dans la première étape, pré-conventionnelle, c'est-à-dire qui se situe avant la convention, c'est-à-dire qui est préalable à la norme, la relation de l'individu est une relation essentiellement égoïque, c'est-à-dire une relation où prédomine exclusivement la logique des besoins. Ce qui caractérise la manière dont l'individu construit son rapport au monde, c'est la satisfaction primaire des besoins. C'est l'instrumentalisation du rapport à l'extérieur, parce que la seule nécessité qui prévaut ici, c'est une nécessité vitale. Il s'agit de rester autant que faire se peut dans une logique de l'autosuffisance, et on a recours à l'extérieur, notamment à la mère, uniquement dans la mesure où elle permet affectivement et, je dirais, anthropologiquement de satisfaire ses besoins. Autrement dit, ici, ce qui est intéressant, et sur ce point, Gilligan est parfaitement d'accord avec Kohlberg. Ce qui est intéressant dans cette première phase, c'est que la nature même de la relation qu'entretient l'individu avec son ego est une relation solipsiste, hein, en isolement. La logique du besoin court-circuite en quelque sorte toute autre forme de médiation. Je m'adresse à autrui pour autant qu'il peut directement, sans médiation, satisfaire ce dont j'ai besoin pour vivre. Et d'une certaine façon, l'image du saint, hein, et l'objectalisation, en quelque sorte, de l'autrui, hein, a une forme de métonymie, c'est-à-dire ravaler, en quelque sorte, la personne à ce qui lui permet de se satisfaire, est une phase normale de la constitution d'ego. Ce qui est intéressant ici, c'est que la relation sociale n'est donc pas une relation sociale, puisque ce qui fait la médiation, c'est uniquement le besoin, hein, mais un besoin qui est d'ordre, je dirais, anthropologique. La seconde phase est une phase où, là, pour le coup, l'ego va s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la relation qu'il va établir est une relation qui va passer par un intermédiaire, qui est la norme, qui est la convention. Ça veut dire que la relation va se dégager progressivement de la stricte nécessité du besoin. Elle se dégage de la stricte nécessité du besoin pour satisfaire des besoins, toujours, mais satisfaire des besoins indirectement. Autrement dit, cette seconde phase, elle correspond au développement de relations qui supposent le respect de règles. On ouvre l'espace de l'interrelation, et cette ouverture de l'espace de l'interrelation, c'est-à-dire qui va généralement au-delà du modèle parental, est une ouverture qui conduit et contraint le jeune enfant à accepter de rentrer dans des règles du jeu, c'est-à-dire de considérer que la relation à l'autre, elle est codée, elle suppose le respect d'un certain nombre de règles de conduite. Et d'une certaine manière, ce respect des règles de conduite a pour effet de stabiliser la relation. Et Quel est le résultat de cette ouverture? Eh bien, c'est d'abord que l'enfant va pouvoir se penser dans un rapport de coexistence avec un autrui qui n'est pas simplement posé comme une menace ou comme un pur instrument pour satisfaire ses besoins. En d'autres termes, cette coexistence, elle est à la fois d'ordre affectif et rationnel, et elle commence à dessiner les contours de ce qu'on pourrait appeler une relation sociale. Et la relation sociale ici, évidemment, ce qui est intéressant et ce qui est plus compliqué, c'est qu'elle elle implique à la fois de l'affection, hein, puisque l'enfant va exprimer et passer par les affects, mais aussi quelque chose d'autre, hein, qui est déjà plus impersonnel, qui est déjà plus général, et qui est la règle ou le souci de la règle. Et donc, d'une certaine manière, l'enfant passe de la dépendance stricte du besoin de la mère à quelque chose qui pourrait s'appeler comme une sorte de considération plus positive d'autrui. À partir de là, on voit bien que l'ego, la figure de l'ego, se socialise. Il doit prendre en compte autrui positivement, c'est-à-dire le respecter, en respectant les règles, respecter autrui, pour satisfaire des besoins. Et c'est très précisément ici que se définit la convention. Qu'est-ce que c'est que la convention? Eh bien, c'est comme une sorte d'obstacle qui vient s'interposer entre ego et autrui, pour permettre à ego et autrui d'exister également, et en même temps, pour que chacun puisse éventuellement satisfaire leurs désirs ou leurs besoins réciproques. Donc, de tout ce modèle, on voit bien qu'on va passer progressivement d'un modèle où la relation privilégiée, c'est la relation à la mère, et où la médiation est une médiation qui est essentiellement affective, à une relation plus ouverte, qui contient des médiations, des détours, où la relation, certes, demeure affective, mais reconnaît également toute une portée institutionnelle, réglementaire. Et surtout, reconnaît progressivement que tout le monde est soumis à ces mêmes règles. Ce n'est pas simplement le moi ou le soi qui est soumis à ces contraintes, c'est que c'est l'ensemble des individus qui se trouvent soumis à ces contraintes. Et là, évidemment, dans ce mouvement de prise de conscience, se situe une autre phase très importante de la prise de conscience de soi en tant que je suis différent d'autrui, mais aussi en tant que je suis semblable à autrui, puisque je me soumets également à la règle. Alors, évidemment, cette phase 2 est une des phases les plus importantes de la socialisation et de l'acquisition du raisonnement moral qui nous intéresse, puisque dans cette phase, l'école, la famille, les modèles, les rôles vont jouer évidemment une fonction extrêmement importante sur le choix des systèmes de valeurs, sur le développement de la personnalité, sur l'acquisition des sensibilités, parce que vous voyez, là aussi, vous comprenez bien que quand on parle d'une sensibilité, cette sensibilité, elle vient pas comme ça du ciel, hein. Elle se construit, elle se façonne, elle est elle-même le produit d'une histoire, la nature en quelque sorte, notre nature sensible. Hein, eh bien, c'est aussi une histoire. Quand on entend dire, parfois par des vedettes à la télévision, que j'ai toujours eu, par exemple, quand on entend des instrumentistes ou des chanteurs qui disent « j'ai toujours chanté, j'ai toujours eu ça dans les gènes », c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce qu'il est possible que ce soit des gens qui ont été très très petits, baignés dans une atmosphère de musique ou dans une atmosphère de chant, de rock, de jazz, peu importe, et qui ont en quelque sorte incorporé comme une seconde nature cette sensibilité à l'écoute musicale. Mais ça n'est pas un don, ça n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui là aussi se construit, évidemment. Et donc, évidemment, si je dis ça, c'est avec un arrière-plan polémique, c'est que la distinction sexuelle, en tant qu'elle est porteuse de différence, est elle aussi le fait d'un ensemble de cultures ou de civilisations, plus exactement d'acquisition de sensibilité. J'en reparlerai tout à l'heure. J'évoque rapidement la troisième phase, dite post-conventionnelle, et qui est là, pour le coup, la phase de la maturité. La phase de la maturité, parce qu'à ce moment-là, eh bien, l'enfant, devenu adolescent, est capable de comprendre qu'il faut respecter des règles, mais que ces règles ne sont pas universelle, que ces règles sont propres à un système, à une société, à une culture. C'est un peu comme, si vous voulez, pour raisonner de manière analogique, lorsque l'enfant découvre que son papa n'est pas le plus beau du monde, il n'est pas le plus fort, et il n'est peut-être pas non plus le plus vertueux ou le plus grand, dans tous les sens du terme. Mais cette espèce de découverte de la valeur relative des choses est très précisément ce qui va conduire à raisonner et à se mettre à l'écart, hein, à prendre de la hauteur pour comprendre ce qui fait la particularité des valeurs avec lesquelles on raisonne. Et vous vous souvenez, dans le dilemme de Hans que j'avais évoqué, le jeune Jack était capable de s'extraire en quelque sorte de la situation pour prendre position sur le respect ou non d'une règle, au motif qu'il y avait des valeurs beaucoup plus importantes, beaucoup plus universelles, beaucoup plus générales, qui étaient celles de l'assistance à la personne en danger, et que cette assistance pouvait justifier la transgression d'une loi positive qui était celle de ne pas voler le pharmacien. Donc vous voyez ici, ce qui ressort de ces trois étapes, c'est que acquérir la capacité à raisonner, c'est bien sûr progressivement être capable d'être général, de monter en généralité, c'est-à-dire de tenir compte de certains aspects des situations et d'évacuer d'autres aspects des situations. Autrement dit, le raisonnement, lorsqu'il est maîtrisé, eh bien, il est généralement abstrait. Il est généralement général. Et je maintiens cette formule un peu lourde et redondante. Parce que la généralité, c'est ici très précisément la propriété caractéristique du raisonnement moral. Après tout, lorsque on essaye d'enrôler des discussions tout à fait complexes sur la liberté du culte à partir de la référence historico-politique à une identité, eh bien, on s'interdit justement de raisonner dans le niveau de la généralité, qui est celui d'une forme d'abstraction qui peut être beaucoup plus tolérante que simplement la question de la référence à l'identité nationale. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon propos. Donc, apprendre à raisonner, ça a plusieurs conséquences si on suit le modèle de Kohlberg. L'individu se constitue, il s'isole, il abstrait, il prend de la hauteur et il fait jouer prioritairement la capacité au raisonnement sur la sensibilité. Et c'est très précisément tout ceci qui va faire l'objet de la discussion contradictoire avec Carol Gilligan. Et maintenant, je reviens à Gilligan. Juste, je voudrais ramasser en une ou deux propositions pour faire la synthèse ce que je viens de dire. Parce que c'est évidemment par rapport à ça que la critique de Gilligan va être la plus intéressante. De l'étape 1 à l'étape 3 du modèle de Kohlberg, on peut dire que progressivement, l'individu devient un isolat. À partir du moment où il a conscience de sa singularité, il se met à l'extérieur pour juger. Il prend distance. Ce qui veut dire, deuxième point, que dans ce cadre ou dans ce modèle, ce qui est présupposé, c'est une figure particulière de l'individu. Un individu comme être séparé. Un individu comme un être qui donne la priorité à la raison sur les sentiments. Un individu qui, dans son raisonnement, fait ou met en avant le rapport à la loi beaucoup plus que le rapport à autrui. Un individu qui donc se pose également par rapport à la loi. En quoi consiste la justice ? Et en quoi consiste le respect moral d'autrui? Eh bien, c'est respecter l'égalité de la contrainte devant la loi. C'est être égaux devant la loi. Et vous voyez bien ici, hein, comme par hasard, que ce modèle de développement morale, eh bien, c'est un modèle qui renvoie à une matrice politique qui est très précise, qui est celle de l'individualisme politique libéral, classique. Ce qui me permet au passage de dire, d'indiquer, et ça c'est évidemment tout à fait passionnant, que la psychologie qui revendique une norme d'objectivité, de scientificité, qui revendique dans de très nombreux cas le label de science exacte, en tout cas de science plus exacte, eh bien, on voit bien que cette science psychologique, elle est elle-même tributaire de représentations et de choix qui peuvent orienter la démarche même de l'enquêteur, la démarche du savant, et dont on comprend bien qu'elle est tout sauf neutre, puisque d'une certaine façon, elle suppose elle aussi un engagement en termes de valeurs et un choix. Et la preuve, ce qui est intéressant dans la discussion avec Gilligan, c'est qu'on va voir apparaître un conflit, justement à ce niveau-là, des choix. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de Carol Gilligan? Carol Gilligan a beaucoup travaillé avec Holberg. Elle a beaucoup travaillé, et dans un premier temps, elle a été tout à fait, elle a partagé en quelque sorte les présupposés du modèle de Holberg. Et puis elle s'est rendue compte que ce modèle, eh bien, provoquait un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de déchets, entre guillemets, ou de réponses qui n'étaient pas pertinentes. Et des réponses qui n'étaient pas pertinentes ou qui étaient pertinentes d'une certaine façon. En effet, il s'agissait de constater que certaines personnes ne parvenaient pas à répondre aux questions qui étaient posées, ou lorsqu'elles répondaient aux questions qui leur étaient posées, les réponses ne correspondaient pas aux attentes des enquêteurs. Pour le dire de façon un petit peu plus précise, le fait que ces réponses ne correspondaient pas aux attentes des intervieweurs avait une conséquence qui, en apparence, était tout à fait banale, bénigne, mais en réalité essentielle, c'est que ces réponses étaient interprétées comme manifestations de handicap, de retard ou d'incompétence, ou de défaut de capacité. Autrement dit, tout ce qui n'était pas conforme au modèle classique que j'ai longuement ici représenté était posé comme un retard dans le parcours de l'assimilation du raisonnement moral. Et cette systématicité des erreurs, ou cette systématicité et cette fréquence des réponses qui ne correspondaient pas au standard a attiré l'attention de Gilligan, qui a commencé à rechercher les causes de ces erreurs. Et elle a vu deux choses très importantes. D'abord, que ces erreurs n'étaient pas réparties au hasard, et que le plus souvent, elles concernaient une population précise, qui était la population des jeunes filles. Pour le milieu social qui l'intéressait, je rappelle que dans ses premières enquêtes, le milieu social des enfants ou des jeunes femmes interviewées sont des populations issues de milieux socioculturels favorisés, ce qui neutralise un petit peu la variable accès au capital culturel et qui permet de faire jouer d'autres éléments de la différence, et notamment la différence entre les sexes. Alors, déjà, ce premier point est intéressant parce que vous voyez apparaître quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que la performance du modèle descriptif de Holberg est complètement subordonnée à une répartition des réponses positives ou erronées qui suit, grosso modo, la séparation des sexes. Alors, évidemment, on peut dire que d'une certaine façon, ce modèle, qui se présentait comme un modèle général, est un modèle particulier, qui concerne, évidemment, peut-être à la moitié de la population, mais en tout cas, pas la totalité. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que du coup, si cette répartition des erreurs n'est pas le fait du hasard, alors, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur ces erreurs et essayer de comprendre autrement ce qui nous apparaît d'abord comme des réponses erronées ou des réponses différentes. Je rappelle que le titre du livre de Gilligan, c'est « In a different voice », une voix différente, et c'est évidemment ce qui va progressivement émerger de l'analyse. En effet, Carol Gilligan va procéder de deux manières. D'une part, elle va reprendre un certain nombre d'enquêtes qu'elle avait conduites avec Kohlberg, et elle va relire avec une autre préoccupation, une autre sensibilité, un autre point de vue, les réponses qui ont été données par les jeunes filles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, elle va faire d'autres enquêtes, des enquêtes complémentaires, très importantes, sur lesquelles je n'insisterai pas parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Des enquêtes qui vont lui permettre de s'adresser à des jeunes femmes, cette fois-ci, plus âgées, généralement qui rentrent dans la vie active ou qui rentrent dans la vie familiale et qui ont eu, à un moment donné de leur vie, à choisir d'avorter ou non. En sachant que cette décision n'est pas une décision qui se prend dans tous les cas, quel que soit le cas, à la légère et qu'elle mobilise des formes de raisonnement qui sont justement des formes de raisonnement moral. Des raisonnements moraux qui mettent en avant l'image de soi, son rapport à autrui, etc., etc. Et c'est à travers ces deux types d'enquêtes, revenir sur les enquêtes qui ont déjà été conduites et interpréter à partir de nouvelles enquêtes la manière dont les femmes ou les jeunes femmes se mettent en scène moralement, que Gilligan a su délimiter un espace de la sensibilité qui est celui qu'elle appelle une sensibilité morale féminine. Alors, en quoi consiste cette sensibilité? Je voudrais ici l'indiquer assez rapidement avant d'aborder les conclusions critiques. D'abord, ce qui est intéressant si vous lisez le livre, parce que évidemment c'est en lisant le livre que on le mesure. Le livre est fait d'ailleurs de ce point de vue-là de manière extrêmement intéressante parce que il contient une infinité d'exemples et de commentaires d'exemples, comme si finalement c'était par l'exemple que on pouvait convaincre de l'effectivité du caractère réel de cette différence de sensibilité. Ce que met en évidence Carol Gilligan, c'est que ce qu'elle appelle cette sensibilité morale féminine passe aussi par des phases, par des moments. La première étant celle que vous connaissez, qui est toujours, pour les petites filles comme pour les petits garçons, une forme d'exacerbation du rapport sur soi, dont le paradigme est la relation maternelle. Mais dans cette relation maternelle, la jeune mère se représente, elle, comme indispensable et comme totalement dévouée, en quelque sorte, aux soins, à la sollicitude qu'elle porte à l'égard de l'enfant qui est posé comme un être hétéronome, essentiellement dépendant. Et dans cette relation d'hétéronomie, eh bien la mère se construit une image de soi comme étant celle sans laquelle l'enfant ne peut pas vivre ou ne peut pas grandir. Vous voyez bien ici que ce qui est intéressant, c'est que dans la manière de poser ici la relation, c'est l'image de soi, l'image de la femme, en tant qu'elle est d'emblée impliquée dans un rapport qui peut être vécu comme un rapport naturel, mais qui est un rapport essentiel, puisque c'est un rapport de subsistance aussi, et qui la conduit en quelque sorte, dans des moments de déséquilibre ou dans des phases de transition, comme dirait Carol Gilligan, à s'oublier ou se sacrifier. Donc il y a ici ce qui est intéressant dans le raisonnement qu'on peut reconstruire à partir des enquêtes et des résultats d'enquête, une sorte de déséquilibre fondamental qui est un déséquilibre qui implique d'emblée la relation à autrui. Et ce qui est important ici de comprendre, c'est que le modèle du développement moral, tel que le fait apparaître le travail de Gilligan, est un modèle qui situe en quelque sorte la jeune femme ou l'enfant dans un rapport à autrui. Et ici, ce qui prévaut, ce n'est pas d'abord la relation à la norme, la relation d'égalité à la règle, c'est une relation à autrui. C'est l'insertion de soi dans un tissu conjonctif qui est celui de la circulation des rôles et des relations entre les membres de la famille, entre les connaissances, etc. etc. Et c'est là que c'est intéressant, parce que dans la manière que la jeune fille, amie, a de tenter de résoudre le dilemme de Hans, cette fameuse question, est-ce que je dois voler le pharmacien pour sauver ma femme, qui est malade, qui est atteinte d'une maladie incurable ou d'une maladie mortelle, eh bien, les hésitations de Amy, les circonvolutions, les détours du raisonnement, loin de marquer une incompétence, mettent en évidence que ce raisonnement se rapporte à d'autres valeurs et à d'autres reconstructions de l'image de soi dans la relation à autrui. Et c'est très précisément le souci de l'autre, hein, le souci et l'attention à l'autre qui constitue la matrice, l'ensemble des valeurs à partir desquelles la jeune femme va raisonner, la jeune fille et la jeune femme. Alors, évidemment, pour revenir aux différentes étapes du raisonnement, eh bien, lorsque la jeune femme prend conscience du déséquilibre qui fait que dans la relation qu'elle a avec ses enfants ou avec l'enfant, elle s'oublie elle-même ou elle se sacrifie, succède une phase de rééquilibrage où la jeune femme, dans le raisonnement, va tenter de rééquilibrer l'image de soi et l'image d'autrui. Et d'une certaine façon, ce qui est très intéressant dans le chapitre 3, si vous avez le temps de vous y reporter, qui porte précisément sur ces entretiens de jeunes femmes qui ont eu ou qui ont pris la décision d'avorter, eh bien, on voit évoluer le raisonnement moral. On voit comment la décision passe par des étapes où c'est d'abord l'image de la priorité donnée à un terme de la relation, puis à un autre terme de la relation, puis un équilibrage, ou le rapport à autrui, membre, conjoint, couple, etc., qui progressivement façonne les étapes du raisonnement moral. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend la complexité et on comprend comment, là aussi, joue tout un ensemble de valeurs et de déterminations qui sont propres à ce genre de sensibilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire le bilan de cette étude critique? C'est que là où Kohlberg voyait quelque chose comme une norme générale s'appliquant à tous les individus, là où il mesurait des écarts en termes de handicap ou de retard, Gilligan fait apparaître une autre sensibilité, une autre aptitude au raisonnement, et quelque chose qui, évidemment, dans le contexte de l'enquête, apparaît bien comme le fruit d'un raisonnement moral féminin. Je dis bien « apparaît bien », et je vais m'expliquer dans un instant sur ce « apparaître ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, le modèle familial est celui que nous connaissons, et on ne peut pas rien dire que depuis les années 70, il est changé, même si sa forme institutionnelle peut se multiplier, se complexifier, se varier, il reste que le maternage, il reste que la prime éducation, eh bien, montre que c'est encore une sollicitation beaucoup plus importante de la femme que de l'homme. Je crois qu'il y a des enquêtes absolument récentes, alors je ne pourrais pas vous donner les références parce que je les ai vues en passant et malheureusement, je n'ai pas eu l'intelligence de prendre les références, qui montre que c'est encore plus vrai et que lorsqu'on interroge les hommes, ça c'est intéressant, lorsqu'on interroge les hommes sur leur propre représentation de la manière de diviser le travail domestique, ils ont souvent le sentiment qu'il y a eu une sorte de rééquilibrage, une sorte de tendance à une égalisation entre les hommes et les femmes. Et quand on confronte ces représentations à des répartitions plus quantifiées, mesurables, des temps passés aux activités ménagères, passés à la garde de l'enfant, bien on se rend compte que c'est une représentation presque fantasmée. Donc, il y a des formes d'inertie qui sont très grandes ici. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un écart, il disparaît avec la durée de vie du couple. Donc au début, oui, il y a une sorte de contrat explicite, on essaye d'être... et puis lorsqu'on est pris dans l'engrenage des carrières professionnelles, de la venue des enfants, des contraintes qui s'imposent entre guillemets naturellement aux uns et aux autres, eh bien la répartition entre les hommes et les femmes se fait as usual. Donc, voilà. Ce que je veux dire ici, c'est donc que il n'est pas du tout incompréhensible de constater que c'est chez les femmes que Gilligan a constaté cette sensibilité. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que ce sont les femmes qui, dans notre société, se trouvent dans la place où elles sont. Place qui les prédispose, en quelque sorte, à développer cette forme de sensibilité, parce qu'elles élèvent les enfants, parce qu'elles ont un rôle essentiel dans l'éducation, parce qu'elles ont une série d'activités non rémunérées socialement au sein de l'espace domestique, etc., etc. Je ne vais pas ici reprendre la litanie des choses qui sont relativement connues. Donc, conséquence de ce que je viens de dire, eh bien c'est une conséquence très importante, puisque cette conséquence, elle consiste à dire ceci. Peut-être qu'au fond, si on essayait d'imaginer une autre distribution des rôles, une autre répartition des rôles d'acteurs, pour le coup, comme dans une scène de théâtre, où on pouvait imaginer que des rôles masculins puissent être parfois tenus par des femmes, et inversement, c'était très fréquent au XVIIe et au XVIIIe siècle, en tout cas. Eh bien, si on inversait un peu les rôles, peut-être que là aussi, cette inversion des rôles, elle pourrait conduire à une redistribution des formes de la sensibilité. Parce que, comme je l'ai expliqué, la sensibilité, elle est le fait d'une éducation, elle est le fait d'une acculturation, d'une incorporation progressive. Et si vous transformez les conditions de cette éducation, il est pensable et donc possible que la sensibilité se transforme. Alors, je dirais qu'on a beaucoup reproché, à Carol Gilligan d'avoir finalement opposé à un modèle masculiniste de la morale, ce qu'on pourrait appeler un modèle féministe. Et si tel était peut-être le cas au début des années 80, il est clair que dans les versions les plus récentes de son travail, elle admet sans aucune difficulté que, plutôt que de parler d'une morale féministe ou d'une sensibilité féminine, il faut dire qu'il existe des sphères différenciées du raisonnement moral et que la sensibilité à autrui, c'est quelque chose qui peut tout à fait être aussi le fait des hommes comme des femmes. Et dans ce contexte-là, l'intérêt du travail tout à fait passionnant de cette grande dame, c'est tout simplement d'introduire un élément de complexité supplémentaire dans ce que nous croyions être au départ une norme générale, et de dire qu'au fond, eh bien, dans la vie ordinaire, dans la vie commune, il peut y avoir, par moments, des positions que l'on adopte qui font prévaloir l'individualité et le rapport à la norme, et des positions que l'on adopte qui font prévaloir la relation à autrui, le souci d'un équilibre dans le tissu des relations interpersonnelles. Et donc, le raisonnement moral n'est pas unique, univoque, monolithique, mais qu'il est complexe, qu'il est varié, qu'il est divers, et donc riche. Je vous remercie.